C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru que tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur qui devait venir. Voilà, ce matin, on va ensemble parler de l'Église. Et voilà. Jean-Luc, tu pourras, après, je te montrerai quand tourner. L'Église comme un corps. L'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. L'Église est le corps de Christ. Et l'Église, donc, est constituée de toutes les personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont fait le choix de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu qui est venu et qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et par cette foi placée en Christ, l'Esprit Saint nous intègre dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ, pour que nous puissions vivre maintenant ensemble. Le chrétien n'est pas appelé à rester seul. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui qui nous entoure, l'individualisme est au centre de tout. Chacun pense à soi. Mais pour Dieu, il en est autrement. Pour Dieu, il y a d'abord la collectivité. Il y a d'abord la communauté de Dieu, la famille de Dieu. Et cette famille est très importante puisqu'elle est le corps de Christ. Et Christ ne peut pas être séparé de son corps. Et quand nous disons « j'aime Jésus », nous aimons automatiquement son corps. Parce que Jésus ne peut pas être dissocié de son corps. Et ce matin, on va prendre dans le Nouveau Testament, on va lire ensemble dans le Nouveau Testament, tu peux aller plus loin. Voilà, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, et nous allons lire les versets 12 à 27. Donc je lis pour vous ces versets. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, donc ceux qui ont accepté Jésus, en effet, été baptisés, été immergés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés, nourris par un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et Paul termine par cette affirmation, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Voilà donc ce texte. On peut passer, voilà, en introduction. Donc quelques mots sur le contexte et sur l'objectif de Paul. Et il faut essayer de comprendre un peu le contexte de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église très difficile qui causait beaucoup de soucis à l'apôtre Paul. L'église de Corinthe est marquée par les divisions, la jalousie, les disputes. Elle est marquée aussi par des personnes qui s'attaquaient mutuellement en justice. D'autres personnes de l'église plus riches méprisaient les pauvres durant la Sainte Cène. Quand ils pratiquaient la Sainte Cène, ce qu'on vient de faire avant, ils mangeaient le repas qu'ils avaient amené et eux étaient remplis à satiété, alors que dans l'église, les pauvres n'avaient rien à manger et avaient encore faim. Et donc, par leur attitude, ils méprisaient ces membres plus pauvres que eux. Les Corinthiens vivaient aussi très mal les dons spirituels que l'Esprit-Saint leur avait donnés. Paroles de sagesse, de connaissance, les prophéties, les miracles, tous ces dons extraordinaires que l'Esprit met à disposition de l'Église, ils les vivaient très mal et ils les pratiquaient très mal. Et ils avaient même connu un certain orgueil pour avoir ces dons. Et ce qui fait que ces dons spirituels qui étaient là pour l'utilité commune, pour que le corps puisse avancer, étaient sujets de jalousie et de disputes, de rivalité les uns avec les autres. De toute évidence, les membres de l'église de Corinthe ne savaient pas ce qu'est l'église. Ils n'avaient pas compris ce qu'est l'église et ne la vivaient pas de la bonne manière. En fait, ils étaient en train de la détruire et de la déshonorer par leur comportement. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, aux Corinthiens, à un moment donné, il leur parle et il met en évidence cet orgueil qu'il y a au milieu d'eux. Et il leur dit qu'ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu, mais ils marchent selon la chair. Ils marchent encore sur leurs anciennes habitudes. Les habitudes de leur nature corrompue, qui, elle, est orgueilleuse, égoïste et centrée sur elle-même. Et les fruits sont là, les fruits sont évidents. Et devant cette réalité donc attristante, Paul a beaucoup souffert de voir cela. Et on le lit dans ses lettres, combien son cœur est lourd de voir cela. Paul veut maintenant révéler à l'église de Corinthe ce qu'est l'église. Il sent qu'ils ont besoin de comprendre mieux ce que c'est l'église et que veut dire appartenir à ce corps de Christ. Comment Dieu voit l'église ? C'est ce que Paul veut leur montrer maintenant, pour qu'après, ils puissent vivre cette Église comme Dieu le veut, et non plus comme eux veulent. Et pour cela, Paul va utiliser une comparaison, celle avec le corps humain. C'est tout simple, il prend le corps humain en référence pour montrer ce qu'est l'Église. Et il met en évidence, dans ce corps humain, l'unité et la diversité du corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et Paul s'appuie sur cette image du corps pour apporter un éclairage aux chrétiens de Corinthe et à nous aussi aujourd'hui pour mieux comprendre ce qu'est l'Église et ce que cela implique aussi pour chacun de nous. Parce que Jésus est mort pour l'Église. Jésus a donné sa vie pour que cette Église existe. Il l'a créée par sa mort et sa résurrection. Il l'a aimé à un tel point qu'il s'est sacrifié entièrement pour cette Église. Et là, on voit combien aussi, déjà, cette Église est importante aux yeux de Dieu. Le premier point qu'on va voir au niveau de l'Église, dans cette unité dans la diversité, on va déjà voir un peu qu'est-ce qui fait cette unité. Et le premier point, c'est le même objectif pour chacun. Ah, c'est un des fondements de l'Église, c'est que cette Église de Jésus-Christ, cette famille de Dieu, n'est pas dispersée, chacun de son côté, chacun n'est pas en train de faire ce qu'il veut, mais chacun, tous ensemble, ont le même objectif. Et quand vous regardez au corps humain, ce corps qui est vraiment une création merveilleuse, hein, c'est le plus grand chef-d'œuvre de toute la création que Dieu ait fait. Et ce chef-d'œuvre humain, l'homme ne pourra pas l'imiter. L'homme essaye aujourd'hui, à travers la technologie, à travers l'informatique, l'homme essaye de produire lui-même aussi sa créature. Hein. Quand vous voyez aujourd'hui, avec l'informatique, ils ont créé des robots qui peuvent parler, toucher, bouger. Et en fin de compte, ils cherchent à prouver à Dieu qu'eux aussi peuvent créer une créature. Mais les robots, mais l'informatique, l'intelligence artificielle n'est rien devant la créature que Dieu a créée devant l'intelligence de l'humain. Et quand on regarde ce corps humain, quand vous regardez votre corps, est-ce qu'il y a un seul membre ? Heureusement pas, hein ? Parce que s'il n'y avait que les pieds, ce corps, en fin de compte, est formé de beaucoup de membres. Je n'ai pas compté en tout. Parce qu'il y a les membres extérieurs, il y a les organes intérieurs. Vous avez en plus à l'intérieur des organes les cellules qui sont aussi là. Ce qui fait que ça fait un nombre incalculable de choses différentes, d'organes, de membres différents, qui sont pleinement différents. un cœur n'a rien à voir avec le foie. Hein? Un pied n'a rien à voir avec une oreille. C'est carrément différent. Un œil n'a rien à voir non plus avec une main. Il y a vraiment des différences énormes entre les différents membres. Et pourtant, tous ces membres, malgré leurs différences, sont unis et travaillent, coopèrent ensemble pour le bien du corps. Pour le bien du corps. Aucun membre de notre corps ne vit pour lui-même. On est d'accord? Aucun membre de votre corps ne vit pour lui-même. Parce que si vous aviez à un moment donné le pied droit qui refuse d'obéir au reste, vous vous en rendriez très vite compte. Ou s'il y a une des mains qui voulait partir à droite, l'autre à gauche, hein, le foie qui dirait « Ah mais moi le cœur je ne l'aime pas, c'est n'importe quoi, ça moi je vais travailler contre le cœur », vous vous rendez bien compte que votre corps, il se détruirait lui-même. D'ailleurs, il y a une maladie qui existe, qui appellent les maladies auto-immunes. Est-ce que vous connaissez ? Maladies auto-immunes, et c'est des maladies, des déformations du corps, où à un moment donné, le corps va s'attaquer à lui-même et va attaquer ses organes, va se détruire lui-même, et donc cette unité va être rompue, et ces maladies mènent à la mort, parce qu'ils détruisent l'intérieur du corps. Et à travers ça, on voit aussi pour l'Église cette réalité, une vérité tellement fondamentale dans l'Église, tellement importante pour l'Église, et probablement que les Corinthiens n'avaient pas compris. C'est que les membres du corps de Christ ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le corps. Ils vivent pour le corps, c'est-à-dire pour Jésus, pour le Christ, pour Dieu. Tout ce qu'ils font n'est plus centré sur eux, n'est plus centré sur leur égoïsme, sur leur orgueil, mais tout est centré sur Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et avec cette unité-là, le corps peut avancer. Et le corps peut porter de bons fruits. Malheureusement, les Corinthiens, on voit qu'à cause de cette attitude qu'ils avaient encore, d'obéir à leurs anciennes pensées, à leur chair, il y avait au sein de l'Église des divisions, des querelles, qui étaient en train de détruire l'Église et de la diviser complètement. Le deuxième point qu'on va voir, c'est tous égaux devant Dieu. Non au complexe d'infériorité ou de supériorité. Et on va lire les versets. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Chez les Corinthiens, il y avait un problème avec les dons spirituels qu'ils avaient reçus. Et apparemment, cette église avait reçu bon nombre de dons spirituels. Et l'église se manifestait, l'esprit se manifestait par ces dons. Malheureusement, les Corinthiens avaient mal compris ces dons parce qu'ils les vivaient avec leur chair, avec leur égoïsme et leur orgueil. Et donc, ces dons étaient devenus des sujets de rivalité, de jalousie les uns avec les autres. Et il y avait donc des personnes, des membres de l'Église, qui, parce qu'ils n'avaient pas un don qui était reconnu comme étant un super don, entre autres le parler en langue, étaient montés par les Corinthiens comme étant le super don, quelque chose d'extraordinaire, qu'il faut à tout prix avoir. Eh bien, les membres de l'Église qui n'avaient pas ce don se sentaient inférieurs par rapport aux autres. C'est la main qui, à un moment donné, regarde, et puis parce qu'elle n'est pas un pied, elle va se dire, « Ah ben, je suis nul, je ne suis pas un pied, donc je ne suis pas du corps. » Et donc, il y a là un complexe d'infériorité que Paul dénonce. De même, il y a ceux qui, à l'inverse, ont un complexe de supériorité. Et donc, dans l'église de Corinthe, il y avait les personnes qui avaient ces dons merveilleux, ces dons miraculeux, et donc ils considéraient ça comme étant le summum, et ils pensaient qu'à cause de ces dons ou de la place qu'ils avaient dans l'Église, par exemple, celui qui était pasteur ou était un ancien par rapport à ceux qui étaient plutôt de simples membres, eh ben, les gens prenaient la grosse tête et disaient « Ah, mais parce que moi, je suis pasteur, moi, je suis un enseignant, donc je suis plus que les autres et je n'ai pas besoin des autres. » Et là aussi, Paul dénonce cette attitude-là. Puisque notre appartenance au corps n'est pas liée à nos mérites, à nos dons, à la place que nous occupons, à ce que nous sommes dans la vie, à notre nationalité, ou que sais-je encore, mais notre appartenance au corps est liée à l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Si nous avons pu entrer dans ce corps, c'est parce que Dieu nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cette grâce exclut absolument tout complexe d'infériorité et exclut tout orgueil et complexe de supériorité. C'est impossible au sein de l'Église parce que nous sommes sauvés par grâce et que Dieu nous a cherchés à droite, à gauche, complètement différents les uns des autres, par la culture, par l'éducation, par nos dons, par ce que nous sommes. Là, Paul parle des Grecs, des Juifs, il parle des hommes libres, des esclaves, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves. Tous, peu importe, Dieu les a cherchés partout, et c'est par sa grâce, par l'amour qu'il leur a témoigné, qu'il leur a permis de venir et d'entrer dans cette famille parce qu'ils ont cru que Jésus était le Messie, celui qui pouvait les délivrer. Ils ont placé leur pleine confiance en Christ et rien d'autre. Dans la famille de Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu, devant l'amour de Dieu. Dieu aime chacun, peu importe la place qu'il a, peu importe les dons qu'il a, il aime chacun comme il a aimé Jésus. Comme il a aimé Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a stupéfait quand je l'ai lu. J'avais déjà plusieurs fois lu dans Jean 17, les versets 22 à 23. J'avais plusieurs fois lu ces versets, mais je n'avais jamais porté attention à la fin du verset. Et un jour, en lisant, ça m'a touché. Voilà ce qui est écrit, voilà ce que Jésus nous dit dans Jean 17, versets 22 et 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc il parle à tous ceux que Christ s'est acquis, tous ceux qui sont venus à Jésus, qui ont cru en Jésus. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et on retrouve encore ici l'unité. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, écoutez bien la fin, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Waouh ! Dieu nous aime comme il aime Jésus. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de favoritisme dans l'amour de Dieu. C'est juste extraordinaire. Et cet amour de Dieu m'est acquis. Je suis aimé de Dieu. Et cet amour ne pourra ni diminuer, ni être augmenté. Des fois, en marchant, nous avons peur que parce qu'on va chuter, l'amour de Dieu va diminuer. Et à d'autres moments, on essaye de faire nos efforts parce qu'on pense qu'avec nos efforts, on pourra pousser l'amour plus haut et on pourra être aimé plus de Dieu. Mais tout ça, ce ne sont que des pensées humaines qui sont liées à notre vieille nature corrompue. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu parce que Dieu nous dit qu'il nous aime au maximum, au maximum. Ni nos chutes, ni nos efforts ne peuvent modifier cela. Ce matin, tu es aimé de Dieu. Tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Ou est-ce que tu es en train de te culpabiliser parce que hier soir, tu as raté quelque chose, ou ce matin, tu n'as pas obéi à Dieu, tu as raté, tu as commis un péché, tu t'es énervé avec ta femme, ou avec un autre, ou je ne sais pas quoi. Et donc, tu te dis que, oh là là, aujourd'hui, je suis moins aimé. Non, aujourd'hui, tu es autant aimé parce que ce n'est pas par grâce que tu es sauvé. Et cet amour est là. Et le fait que tout soit don de Dieu, que tout soit grâce, exclut de manière radicale tout orgueil et tout complexe d'infériorité. Et là aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui ont des complexes d'infériorité. Je voudrais vous dire ce matin que ce n'est pas selon Dieu. Mais par ce complexe d'infériorité, vous vous opposez à la volonté de Dieu. Vous vous opposez à l'amour de Dieu. Et il faut lâcher ces choses pour se laisser transformer, renouveler dans notre intelligence, dans nos pensées, par la vérité que Dieu nous révèle. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Qu'ai-je que je n'ai reçu, écrit l'apôtre Paul. Et si je l'ai reçu, pourquoi m'en glorifierais-je? Le troisième point, la compassion. Avoir également soin les uns des autres. Troisième point, la compassion. Avoir également soin les uns des autres. partir du verset 22, je lis. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La compassion de Dieu. Les Corinthiens ne se souciaient pas des autres. Même durant la Sainte Cène, comme j'ai dit avant, ceux qui étaient plus riches, ils prenaient la Sainte Cène pendant un repas, c'est ce qu'ils faisaient. Jésus aussi, quand il a pris la Sainte Cène, c'était lors d'un repas. Et donc, il prenait la Sainte Cène pendant le repas, l'agape qu'il faisait. Et il y avait donc des personnes aisées, qui avaient donc de quoi vivre, qui avaient amené leur nourriture, et visiblement, ils ne faisaient pas les agapes comme nous, on les fait. Nous, quand on fait les agapes, on met tout sur la même table, et chacun vient se servir. Eux, ce n'était pas le cas. Chacun mangeait ce qu'il avait apporté. Et donc, il y avait les riches, qui, eux, effectivement, mangeaient bien et même se gavaient, même des fois étaient ivres. Paul dit qu'ils étaient ivres. Alors que les autres, il y avait des pauvres, puisqu'il y avait aussi des esclaves dans l'église de Corinthe. Et bien, les autres étaient là, ils avaient faim, et personne ne leur donnait rien. Ça, c'est pas normal dans une église. C'est une anomalie, parce que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a la compassion. Nous nous soucions des autres à l'image de Jésus. Jésus, quand il est venu dans le monde, il est venu par compassion. Non pas pour son propre intérêt, mais il est venu par compassion parce qu'il a vu que nous avions besoin de lui. Que nous avions besoin de lui. Et il est venu et il a tout donné pour nous. Il n'a rien gardé, il s'est livré lui-même pour que nous soyons enrichis dans notre pauvreté. On voit aussi cette compassion dans le corps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez mal quelque part au pied ou que vous avez une douleur dans le dos, est-ce que vous remarquez que tout votre corps va s'adapter, tous les membres savent que vous avez mal à cet endroit-là ou que ce membre est douloureux, et donc tout le corps va prendre des positions pour éviter de souffrir ou pour limiter la souffrance. Ça vous est jamais arrivé? Quand vous avez mal quelque part, vous êtes souvent penché. Quand vous avez mal à un pied, au pied droit, souvent vous vous penchez, vous compensez, votre dos compense pour que voilà, vous n'ayez pas trop mal. C'est naturel dans le corps humain, tout à fait naturel. Dans le corps de Christ aussi, on est appelé à avoir cette compassion, cette sensibilité à l'autre, à voir plus loin que moi, même au-delà de moi, ne plus me considérer, mais considérer l'autre. Être centré. Le premier point, j'avais dit avant, c'est le centrage sur Dieu. Ce désir de faire la volonté de Dieu à tout prix, et rien d'autre que la volonté de Dieu. Mais de cette attitude-là, de ce centrage sur Dieu, va découler l'amour pour les autres. Jésus disait que le premier commandement de toute la loi, c'est aimez-vous. Non. Le premier commandement de toute la loi, le plus grand qui soit, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et de ce commandement découle le deuxième, qui n'est pas semblable au premier, hein, faut pas les mélanger. Hein. Et le deuxième qui découle, c'est tu aimeras ton prochain. Et donc, quand on est tourné vers Dieu, qu'on a tout donné à Dieu, qu'on est centré, qu'on ne vit que pour Dieu, automatiquement, on va penser aux autres. Prendre soin de ceux qui sont plus faibles, prendre soin de ceux qui souffrent. Et pour finir, conclusion, Paul, à la fin du chapitre 12, écrit « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et la voie que veut leur montrer Paul, c'est la voie de l'amour, 1 Corinthiens 13. C'est ça. C'est l'amour qui va être le terrain sur lequel on pourra vivre l'Église. L'amour. Pas le nôtre, hein, l'amour de Dieu. Et je vais juste conclure par les versets de 1 Corinthiens 13, les premiers versets de 1 Corinthiens 13, où Paul fait cet hymne à l'amour merveilleux, où il décrit l'amour divin, l'amour de Dieu, de manière extraordinaire. Et il écrit donc 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'au verset 7. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre l'Église comme lui le veut, qu'on puisse déjà voir l'Église comme Dieu la voit, pour que nous puissions la vivre comme Dieu le veut. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci pour ton amour que tu nous as manifesté. Tu n'as pas voulu nous laisser perdus avec notre cœur orgueilleux et égoïste, mais tu es venu pour nous arracher à notre funeste destinée, pour nous libérer de nous-mêmes et nous amener à toi, nous ramener à toi entièrement et nous unir ensemble, tous ceux qui croient, dans ta famille, dans l'Église, dans le corps de Christ, pour que nous vivions pour toi, que nous ayons tous les regards sur toi avec ce désir, cette soif de t'obéir, même si nous n'y arrivons pas encore pleinement, mais nous voulons y arriver, Seigneur. Et nous savons que tu veux nous y aider, que tu veux nous y engager parce que c'est ta volonté, Seigneur. Et tu es là, par ta grâce, tu nous offres, par ton esprit, la puissance, la capacité. Tu nous remplis par ton esprit de ton amour pour nous permettre de vivre l'Église. Ô Seigneur, donne-nous de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix pour te suivre. Donne-nous de nous dépouiller de nous-mêmes, de nous laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir les habits que Christ nous a acquis et de revêtir l'amour par-dessus toutes ces choses. Merci de nous bénir, de nous conduire, Seigneur. Nous regardons à toi, nous crions à toi et nous te bénissons parce que tu es là et que tu nous aimes. À toi, toute la gloire. Amen.